La perception est une inférence inconsciente. Il y a beaucoup de projections a priori, qui l'on étudie maintenant, via les illusions. Je vous donne un autre exemple ici. Si je vous demande, la nappe qui recouvre la table A est-elle de même surface que la table qui recouvre la nappe qui recouvre la table B? Si je vous pose la question, c'est que ce n'est pas le cas. Mais on a de la peine ici à dire que ce serait de la même surface. Je vais montrer la chose animée. Pour les sceptiques, bien sûr, A est égal à B, strictement. Alors on peut le voir en déplaçant la nappe. D'accord ? Où l'état ? Donc il n'y a pas de truc là derrière. Qu'est-ce qui se passe ici ? Tout simplement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le cerveau, au moment où vous ouvrez les yeux, votre cerveau projette automatiquement la loi de faire de la perspective. Vous ne voyez pas d'abord, comme c'est le cas ici, deux surfaces sur le plan, en deux dimensions, pour ensuite déduire consciemment une troisième dimension et en calculant la projection de cette table dans l'éloignement par rapport à votre point de vue. Non, vous ouvrez les yeux et vous spontanément projetez, comme de manière embarquée, le traitement en perspective. Eh bien, pourquoi ? Simplement pour des raisons évolutives, hein. Les entités qui, à un moment de développement de cet univers, avaient la capacité d'interpréter l'information distale, et pas seulement proximale, mais distale, avaient peut-être même eu de chance de s'en tirer face aux prédateurs, parce qu'ils pouvaient évaluer leur distance. Alors ça, c'est la just so story, c'est l'histoire blabla de la psychologie évolutionniste. La psychologie évolutionniste n'a que des histoires blabla, elle n'a pas les preuves de tout ça, mais en général, elle a un faisceau de preuves qui les soutient généralement. Donc les cellules qui sous-tendent ici votre perception de ces deux tables se font à la fois recouper l'information sensorielle entrante et les attentes top-down qui sont dans vos cerveaux. Vous voyez, percevoir, ce n'est pas être passif, ce n'est pas être complètement actif et idéaliste et même solipsiste, il existe autrui quelque part en face de moi, mais que ceci est une construction. Les néo-cybernéticiens et même les cybernéticiens parlait de ce cerveau, et ça, ce sera peut-être pour les applications pédagogiques dans un autre contexte. Le cerveau fonctionne comme une machine à prédiction, on s'en rend pas compte. Il prédit les choses, il n'a pas le temps de tout calculer, le tigre va vous sauter dessus avant. Il prédit les choses, et ensuite il corrige en fonction des entrées sensorielles. Donc la notion de l'erreur est constitutive du fonctionnement du cerveau, la perception, l'attention et l'apprentissage, énoncé qui, bien sûr, je ne vais pas développer ici, mais qui a de grandes perspectives du futur pour méthode pédagogique, où, en tout cas en Suisse, l'erreur était considérée comme une punition. Là, au contraire, c'est une condition nécessaire à l'apprentissage. Alors, un petit résumé de ce que j'ai dit pour le moment, et passons à l'attention après coup. Donc, je fais ce moment de distractabilité, comme Thierry nous a dit qu'il fallait les faire. On a à gauche la gestion mentale avec ses gestes, que je ne connais pas plus que tant. De l'autre côté, le monde des neurosciences cognitives, avec des flèches qui représentent ici la porosité aujourd'hui entre ces deux mondes, puisque Antoine Lagarenterie et Daniel Dennett ont l'air de formuler des énoncés où les méthodologies ont un même sens. Et j'ai repris ici ce que j'ai trouvé dans les livres qui sont utilisés pour la gestion mentale en Suisse, donc Chantal Evano, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, la seule perception, même elle est là, non ? La seule perception, même anticipée, ne laisse pas de traces suffisantes pour apprendre. Donc ça correspond tout à fait à ce cerveau bayésien qui combine l'a priori et les données. C'est-à-dire votre attente, votre expectative et même vos attentes inconscientes, pas seulement vos attentes conscientes, je vais voir le lapin, non, mais les attentes inconscientes comme la perception de la profondeur sont projetées. Et quand c'est des illusions, si vous voulez, il y a une correction qui se fait post hoc avec les entrées sensorielles. Donc, c'est un schéma ici très théorique et programmatique pour nos futures rencontres, j'imagine, donc je passe vite dessus. Maintenant, passons à cette attention en faisant la transition comme Thierry la faisait quand il parlait du rapport intime, on va dire ça comme ça, entre la perception et l'attention. Je vais le faire toujours avec cette notion d'attente ou d'anticipation qui joue comme voyez, ce filtre dont je parlais tout à l'heure, ce spotlight de l'attention, comme un révélateur photographique pour un percept donné. Vous avez ici un ensemble, une matrice de points noirs et blancs qu'on présente au sujet. Et souvent, les sujets prennent du temps, on va dire, voilà, c'est quoi les tâches de Rorschach, ou c'est quoi. Et ils mettent du temps pour voir le dalmatien. Donc il faut une conduite, un enrichissement, soit par le langage, qui peut modifier le focus attentionnel de mes élèves. Quand je dis, vous voyez le dalmatien? Et bien entendu, on peut imaginer, vous voyez ce focus attentionnel, il va agir comme un révélateur. Est-ce que tu vois le dalmatien? Voilà, les moyens de le faire. Donc ça, c'est un tour de passe-passe, on va dire, d'ordinateur, mais en classe, on peut le faire par les différentes entrées sensorielles, les canaux privilégiés. On peut lui dire qu'il y a un dalmatien, on peut faire bouger le dalmatien, on peut entourer le dalmatien pour qu'il le voie. Vous voyez, si on souligne comme ça, après, on ne peut plus ne plus le voir. Ou peut-être pour le kinesthésique, enfin, le kinesthésique, nous sommes tous, tout, mais peut-être à un moment donné, c'est du mouvement qu'il vous faut pour le révélateur, vous revenez et vous voyez ce que vous ne voyez pas. Donc on peut manipuler le focus attentionnel. Les entrées sensorielles, on disait brutes, sont nourries par ces attentes. Elles sont influençables top-down, c'est-à-dire par le projet, l'anticipation au sens phénoménologique et de la gestion mentale, tout autant que par non-influençables, c'est-à-dire projetées par des capacités embarquées en nous, des algorithmes hérités de l'évolution naturelle qui, grâce à la sélection, nous en font les bénéficiaires. On peut donc éduquer ces attentions et, comme le disaient Michel et Thierry ce matin, je crois que c'est la porte d'entrée dans le monde de la gestion mentale. L'acte d'attention est celui qui ouvre le champ de la connaissance à condition qu'il soit exécuté comme il se doit. Sur ces premières minutes préparatives, propédeutiques que j'ai passées avec vous, je bascule maintenant dans cette attention. On voit qu'elle a un rapport proche avec la perception et les attentes. Et voyons encore une fois, comme s'il fallait planter le clou, mais nous sommes maintenant convaincus, Antoine de la Garandie était tout à fait ouvert à ceci. Il disait, dans Défense et illustration d'introspection, il n'est pas impossible de demander à la psychologie expérimentale d'apporter son précieux concours à l'évaluation de nos hypothèses. Des tests pourraient être envisagés par des spécialistes avec lesquels serait élaboré un protocole. Alors passons à ces idées d'instanciation possible. J'ai demandé de porter votre attention sur le sens de rotation très connu maintenant, elle est depuis 2007 sur Internet, de la fameuse spinning lady, c'est-à-dire la danseuse tournante. Si vous êtes d'accord, je prends juste mon truc. Okay. Je vais la mettre en continu. La boucle. Voilà, j'adore cette spinning lady. Et je demande à Philippe Clémenceau, parce que je travaille avec nous. Dans quel sens tourne la spinning lady? Dans le sens des aiguilles du monde ou dans le sens inverse des aiguilles du monde?
Si on veut par-dessus ou par-dessus?
Comme tu veux.
Elle a bien changé.
Okay. Et si je demande à la salle en général, qui la voit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre? Je vois des mains qui se lèvent. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je vois d'autres mains qui se lèvent. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le réel alors? Si la moitié des gens la voient dans un sens et la moitié des autres personnes dans l'autre sens. Un scientifique dirait, à ce moment-là, je constate une variabilité inter-individu. Pas tous les individus font la même interprétation du stimulus qui est toujours le même. Et après un certain temps d'observation, il y a non seulement une variabilité inter-individuelle, il y a une variabilité intra-individuelle. Est-ce que vous sentez, quand vous observez, qu'elle switch ou qu'elle change de sens de rotation? C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Alors je vais vous montrer comment on peut éduquer son attention et ça nous permettra d'entrer dans la taxonomie. Alors reprenons notre spinning lady, mais on la dédouble au ralenti. Alors, ça, c'est ce que vous voyez au départ. Je vous propose de regarder là. On s'entraîne à soit rester, et c'est les deux portes d'entrée de la taxonomie des systèmes attentionnels. La première, c'est l'attention top-down, et la deuxième, ce sera l'attention bottom-up. L'attention top-down étant ce que disait Thierry, la contrôlée, la volontaire, et la bottom-up, du bas vers le haut, étant la capture attentionnelle non volontaire. Donc on a un recoupement ici entre ce que tu disais, Thierry. Alors, première chose, on avait ça comme percept. Est-ce que tout le monde voit bien? C'était le centre. Pour les gens qui avaient une difficulté à l'avoir tourné dans le sens des aiguilles du montre, je vous propose de porter votre attention sur le pattern de stimulation qui est à gauche ici, où vous voyez sa jambe droite qui est marquée d'une bande bleue. Voilà. Porter votre attention là-dessus va biaiser, c'est le rôle de l'attention, faciliter, accélérer une interprétation donnée. Et si vous revenez à ce stimulus initial, vous voyez normalement maintenant, parce que vous allez éduquer ou favoriser la compétition neuronale qui interprète. Hein ? Ça marche, hein ? Attends, quand ça arrive en général, c'est que ça marche. Maintenant, pour ceux qui étaient dans le sens inverse des aiguilles du montre, je vous propose. Allez. Et donc après, je vous demanderai, si on avait le temps, et en faisant en classe avec les tout petits, et ça marche, on peut entraîner soit la concentration, soit la flexibilité mentale, c'est-à-dire le fait de ne pas être figé dans une interprétation. Voyez donc ici que l'attention à ce point-là se définit par deux aspects antithétiques. Le premier, c'est la concentration. Je ne veux pas que la danseuse switch d'un sens à un autre, c'est-à-dire cette conquête du réveil que l'on veut être stable. Et puis, pour des raisons de survie qu'on expliquera dans quelques minutes, l'attention se définit aussi par son opposé, et c'est la distractibilité. En quelque sorte, c'est la capacité à changer l'interprétation, à sortir de sa concentration. Alors, normalement, si vous vous entraînez un tout petit moment, ça marche très bien en classe, vous pouvez ad nauseam, maintenant, sur le pattern initial, vous entraîner à dire je vais soit rester constant sur une interprétation et ne pas être perturbé, distrait, soit faire preuve de ce qu'on appelle flexibilité mentale. La terminologie, ce serait le recadrage, voir autrement, voir une nouvelle facette, une autre abschattungen, n'est-ce pas, et ne jamais épuiser l'objet et de changer d'interprétation. Donc on peut manipuler son attention, soit pour être plus focalisé, concentré, top-down, soit au contraire pour être distrait. Alors je vais essayer de vous montrer comment on entre dans cette taxonomie, avec peut-être, je voulais quand même ne pas éviter la citation de William James, un des plus grands psychologues et philosophes de l'esprit. Il disait ce que disait Thierry ce matin, donc il définissait l'attention par cette conquête du réel. L'attention à la prise de possession, je vois encore Thierry ce matin avec son engagement, son souffle, c'est la possession de l'esprit, la conquête du réel, sous une forme claire et vive d'un objet ou d'une suite de pensées, ça peut être mental, parmi plusieurs qui semblent possibles. La traduction de cette conquête du réel en neurosciences cognitives aujourd'hui, c'est les thèses du darwinisme neuronal. C'est que vous avez des tas d'interprétations possibles, ces danseuses qui tournent, etc. Et elles existent dans votre cerveau. Les points qui montent et qui descendent, tout à l'heure, quand vous dites « je vois les points monter ou descendre », dans le cerveau, on voit les deux interprétations possibles. Mais on ne voit pas qu'elles sont en compétition, en sélection darwinienne, pour la gloire cérébrale. Donc ce qui va gagner votre conscience, en fait, c'est une assemblée de neurones qui traite le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc en fait, dans le cerveau, il y a une constante bataille entre des assemblées neuronales qui pulsent pour différentes interprétations, et on parle aujourd'hui de darwinisme neuronal. Donc, quand il y en a une de ces représentations, disons la danseuse qui tourne dans un certain sens, on a donc une sélection aux dépens d'autres potentiels, c'est-à-dire des autres sens de la danseuse, qui a été fixé ici par le cerveau pour des raisons probablement d'optimisation de ce traitement parce qu'il avait une valeur importante. Donc, si vous vous concentrez, vous avez comme corollaire qu'elle implique le retrait, forcément, des autres objets alentour. Donc, plus vous allez vous concentrer, moins vous allez voir. Donc, la nécessité de ce retour à cette disponibilité, je vais essayer de finir ma présentation sur ces idées-là en parlant de cécité attentionnelle. Donc, plus vous allez, un magicien arrive ici, dans les laboratoires maintenant, plus vous allez vous concentrer pour essayer de détecter son tour de passe-passe, sa manipulation. Je ne vais pas me servir. Moi, j'ai même triché avec David Copperfield. Une fois, j'étais arrivé avec mes lunettes d'approche en passant par les gorillés pour voir comment il faisait. Il a fait disparaître une américaine rose 4,50 m de long devant moi, une voiture, je précise. Avec des sujets choisis aléatoirement au ballon dans la salle, etc. Ça énerve les nerfs quand vous le voyez. Et lui, il entre dans les laboratoires en disant « Nous savons rendre les cerveaux aveugles, on a le know-how, le savoir-faire, expliquez-nous comment et pourquoi le cerveau est rendu aveugle. » Donc on a une collaboration très intéressante qui s'élabore. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de montrer le retrait, c'est-à-dire la cécité fonctionnelle qui peut se passer dans des situations tout à fait normales et perceptives et qui nous permettent de développer cette taxonomie. Alors retenons jusqu'à présent l'attention bottom-up. Donc c'est l'automatique, l'involontaire, l'inconsciente, la zombie, celle qui vous permet de réagir au bruit, à la science, à éviter le météorite qui tombe d'attraper la femelle qui passe, si on prend le discours révolutionniste, si vous voulez. En général, ce sont des circuits qui sont, j'essaie de décrire tout à l'heure, très profonds et qui n'accèdent pas à l'espace neuronal conscient. Les attentions top-down, c'est celle qu'on a discuté donc, comme étant les contrôlées, les conscientes, les volontaires, le projet et l'intentionnalité. Donc on voit déjà donc, deux aspects antithétiques et on peut déjà retenir ici qu'il n'y a pas l'attention, il y a déjà des attentions. Donc l'attention, comme la mémoire, c'est un phénomène au pluriel, des attentions. Bien entendu, dans la taxonomie, on essaye de parler, je n'aurai pas le temps maintenant, mais je garde ça pour la table ronde, d'attention partagée, ce qu'on appelle diviser aussi, c'est-à-dire le multitasking, faire deux choses en même temps. Est-ce que c'est possible de partager son attention sur deux tâches simultanées? Alors, on verra que c'est un mythe, mais j'en parlerai, je pense, avec Thierry et Philippe cet après-midi. Donc on a ce type de choses dont je vous ai parlé, et on a donc cette notion d'attention top-down qui sélectionne biais. Alors là, je vous avais de nouveau le spotlight dont je parlais, avec lequel j'avais commencé. Donc, ça, c'est la danseuse qui tourne dans un sens tout à l'heure, mais dans votre cerveau, c'est-à-dire dans l'ombre, dans les coulisses causales, vous avez par exemple le chat ou la porte ici, ce seraient d'autres représentations neuronales qui pulsent pour de potentielles représentations, c'est-à-dire la danseuse qui tourne dans l'autre sens. Donc, n'accède à la conscience que ce qui est passé par le filtre sélectif, biaisant de l'attention contrôlée. Et volontaire. Bien sûr, peut arriver à votre conscience des captures attentionnelles, justement bottom-up, comme le bruit, le danger, etc. Mais quand on parle de concentration à l'école, quand on parle de faites attention, c'est toujours entendu, normalement, on disait Thierry comme ça, c'est toujours entendu dans cet effort, hein, cette tension vers l'objet d'apprentissage. Donc on voit que plus vous vous concentrez ici, plus vous allez rendre dans l'oblivion de l'environnement, dans les choses. On a commencé à étudier cette notion de filtrage avec, bien sûr, des modèles animaliers. Vous avez ici un chat, qui est la vie que j'aimerais avoir, personnellement. Donc, c'est très schématique. Vous voyez qu'il y a des électrodes implémentées dans son cortex. Et vous voyez ici des symboles de ce qu'on appellerait des courbes d'activité électrique de son cerveau. Au moment où il entend un bruit, son cortex auditif réagit. C'est ces points qui sont soulignés ici. Il est là, il fait sa petite sieste, et bottom-up, il est capturé par le bruit. C'est tout à fait normal, il est programmé pour faire ça, il est hardwired pour faire ça. Maintenant, quand on le distrait, c'est-à-dire quand on prend son focus attentionnel, quand on le braque sur quelque chose qui l'intéresse particulièrement, et bien entendu là, au niveau éducatif, il y a des applications directes sur le circuit de la récompense, comment capturer l'attention de nos élèves en stimulant les circuits de la récompense, les circuits dopaminergiques. Quand on lui donne quelque chose d'intéressant, ces potentiels évoqués ici vont disparaître. C'est-à-dire, en gros, si on lui met une souris sous le nez, il n'entend plus les bruits. Vous voyez ici qu'au point temporel isomorphe, vous n'avez plus d'excitation. Donc, à la présentation d'un stimulus intéressant, vous avez un phénomène de capture attentionnelle qui va le rendre ici pas aveugle, mais sourd au son. Il semble que ça marche pour toutes les modalités. Et je voudrais faire une expérience avec des humains, comme vous et moi maintenant. J'ai apporté ici une petite vidéo que j'ai trouvée de collègues américains. Donc de même que le chat n'entend pas quand son cerveau filtre, c'est-à-dire utilise son attention exclusivement pour la souris, de même notre cerveau peut induire une cécité attentionnelle quant à ce qui est pourtant droit sous nos yeux, en plein centre de nos fovéas. Je vais vous demander, si vous êtes d'accord, de jouer un petit jeu avec moi. Habituellement, on met ça sous forme récompense, on peut jouer un peu d'argent ou à classe, on peut proposer des raccourcissements de devoirs. Donc la tâche du sujet est de suivre la pièce dans toute magie. Vous connaissez à Paris, d'ailleurs, moi j'étais à Paris quand j'étais petit, il y avait des gens qui disaient ça. On va cacher une pièce sur les gobelets vont tourner dans tous les sens. Je vous demande de focaliser votre attention sur le gobelet qui cache la pièce. Si vous désignez le bon gobelet à la fin, vous gagnez le double de ce que vous avez mis sous la pièce. Si vous désignez un mauvais objet, vous ne gagnez rien. Ready to go? Let's go. Alors, je vais amener un peu de distractibilité en parlant, bien entendu, pour vous rendre la tâche plus difficile. Je vous distrais dans votre attention top-down, on est dirigé, blablabli, blablablo, blablablu. Mais vous arrivez à garder votre focus. Alors maintenant, je vais chanter ici, d'ici, vous allez plus perturber probablement. Non, je ne vais pas chanter. Alors, j'espère que vous suivez le focus.
Yes.
Yes. Est-ce que quelqu'un a été perdu? Tout le monde a trouvé. Bon, alors, d'accord. Avez-vous vu le pepperoni vert? Le quoi? Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc vous étiez en cécité attentionnelle parce que vous étiez captivé par une tâche que je vous ai proposée, vous donnée. Mais pendant plus de la moitié de la séquence, à la place d'un gobelet vert, vous avez eu un pepperoni qui s'est introduit ici. Voilà.
Ah ouais.
Qui n'a pas vu le pepperoni vert? Oh là là. Donc, plus votre attention top-down est mobilisée, plus votre cécité fonctionnelle périphérique sera importante. Et il y a des raisons neurobiologiques à ceci. C'est que les neurones qui computent pour la pièce que vous suivez travaillent activement et sont reliés à d'autres neurones qui computent pour la périphérie. Mais autant ils sont activés de manière excitatrice pour focaliser sur la pièce, autant ils sont reliés de manière inhibitrice pour la périphérie. On ne le savait pas il y a quelques années, donc vous voyez qu'on trouve ici des raisons biologiques à cette cécité attentionnelle. Je vais vous montrer une deuxième expérience qu'on a faite sur le campus, j'espère que le son va marcher. C'est le phénomène typique d'une disruption de vos deuxièmes champs, une rupture rapide. Je vais passer la vidéo rapidement, c'est des choses qu'on voyait à la télévision en caméra cachée. Donc vous avez une personne sur le campus, je crois que qui a son attention interrompue par quelques millisecondes, hein, que c'est un étudiant psychologique qui lui pose des questions psychologiques, pas, ou bien où est la cafétéria. Elle le voit et pourtant elle ne voit pas que la personne a changé. Parce qu'elle est toute concentrée à répondre à cette personne. Donc c'est assez étonnant, c'est d'autant plus intéressant que c'est les étudiants en psychologie qui sont conscients de leur cécité, n'est-ce pas? Alors on va avoir une autre séquence rapide ici, où le corps de la personne, la couleur est encore plus saillant, mais le phénomène de cécité reste... Donc là on voit qu'ils sont différents, mais maintenant on va avoir un autre cas... où la personne change de couleur, littéralement, la dame en jaune qui va substituer. Et en général, les gens continuent leur explication. Donc c'est un phénomène robuste qu'on peut mesurer très sérieusement. Et je vous propose, j'ai encore quelques minutes, hein, je crois. Je vais essayer de vous proposer le paradigme expérimental contrôlé qu'on appelle cécité attentionnelle, change blindness. Vous avez une image très simple ici. Du protocole, vous avez une image que vous regardez tranquillement. Donc ici, je ne sais pas, une statue. Hein, oui. On insère quelques 240 millisecondes d'un écran blanc et suivi de l'image A, qu'on appellera A, la première, mais légèrement modifiée, donc on l'appelle A' et on rentre en boucle. Alors, la tâche du sujet, c'est de dire quand il voit un changement entre A et A'. Qu'est-ce qui change? Alors, vous faites longtemps? 8, 9... Ok, il y a des gens qui ont trouvé, il y a des gens qui n'ont pas trouvé. Alors, c'est la barre qui se trouve en fond. De...
c'est vrai.
Alors ici, on a aussi une cécité. Donc, si votre cerveau est sous une de nos machines, on voit que votre cerveau voit, mais que vous ne voyez pas. Alors, quelque chose d'assez important, c'est l'antiphon au jour de scène, puisqu'il s'agit du moteur. Je crains de déborder un petit peu, mais j'aurai une séquence, on pourra peut-être la faire défiler à la table ronde, une séquence où je peux vous montrer les temps moyens en chronométrie des temps de réaction des sujets avec Daniel Dennett qui commente les choses. Je le garde peut-être pour la table ronde, hein, si vous êtes d'accord. On va faire ça comme ça. Ce que l'on peut faire au moment où vous voyez cette scène, c'est de l'oculométrie, c'est-à-dire du eye tracking. On regarde où vous posez le regard et qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion à partir de ceci. Alors, on peut tirer une première chose, nous ne regardons pas comme des robots de A1 jusqu'à ZN en sériant les choses. On ne voit pas non plus de manière aléatoire en allant promener son regard là, là, là. On a un parcours sur les objets signifiant, à nouveau donc, comme on dirait en phénoménologie ou même en gestion mentale, une attente, des expectatives sur des objets signifiants, des visées de signification. En l'occurrence, on sait qu'on est câblé dans ces cas-là pour porter son attention sur les visages et les mains. Vous voyez, dans cette scène romantique des années 80, il n'y a pas une visite aléatoire ni une visite systématique comme un robot de la scène visuelle. Donc, si vous passez chez un responsable RH pour un emploi, il va inconsciemment lui-même regarder vos mains plus qu'autre chose. Si vous le savez, vous avez une course d'avance sur lui. C'est des trucs de psychologue, oui, mais le phénomène se réitère dans la vie de tous les jours. Cette interruption de 240 millisecondes dans les expériences de cécité attentionnelle, on les appelle en fait dans la vie de tous les jours des saccades, ce que je vous empêchais de faire tout à l'heure avec le point de fixation. Elles durent, ces saccades, 20 à 40 millisecondes, donc ça vous permet de positionner votre fovéa quand vous lisez, par exemple. Hein. Je sais pas quand vous vous couchez, mais dans une journée, on estime à 100 à 200 000 le nombre de saccades qu'on fait par jour. D'accord. Et dans ces moments-là, vous êtes en cécité fonctionnelle, sans le savoir. Ça veut dire à peu près le cinquième de votre vie mentale est un état de cécité attentionnelle. On ne dirait pas, et je ne crois pas, et j'aimerais gentiment vous amener vers le repas. On va être quelques minutes en retard, mais est-ce que c'est si grave ? On va passer le premier objet. L'avez-vous vu, peut-être cette histoire de tâche à compter le nombre de passes d'une équipe de basket ? Vous connaissez ? Qu'est-ce qui se passe dans cette expérience ? Il y a un gorille que la plupart des gens ne voient pas. Alors si vous êtes d'accord, on va faire la même expérience pour ceux qui ne l'ont jamais faite. Mais bien sûr, je vous pose un piège à ceux qui l'ont vu, parce que... Je vais croire un petit peu. Donc, c'est des travaux de M. Simon aux États-Unis qui, depuis une quinzaine d'années maintenant, sont étudiés sous tous les aspects. Mais voici la version donc simplifiée. Une équipe blanche, une équipe noire, aux tâches de compter les passes de l'équipe blanche. Là, le gorille apparaît, mais la plupart du temps, plus de 50% des gens ne voient pas le gorille. Mais maintenant, on sait, et probablement que ceux qui savaient étaient en anticipation de ce gorille. Et ça, en se mettant en anticipation de ce gorille, ils ont donc loupé le deuxième degré, c'est-à-dire les autres changements de la scène. Peut-être vous avez peut-être vu le gorille cette fois-ci, mais vous avez peut-être manqué le changement du couleur. Il y a, je crois, quelque chose de noir qui a disparu. C'est bien le cas. Donc, vous voyez l'histoire, c'est qu'on est toujours rattrapé par ce genre de phénomène de cécité, et même quand vous êtes en visée intentionnelle de détecter, vous ne détectez pas. C'est extraordinaire. On pourrait dire que c'est désespérant. On est dans des états de cécité fonctionnelle qui peuvent causer des accidents, bien entendu. Mais en fait, le fait de savoir que nous sommes aveugles, n'est-ce pas ? Parce que ça montre que nous sommes aveugles, et ça nous montre que nous sommes aveugles à notre aveuglement. C'est encore pire. Mais le fait de savoir que nous sommes aveugles à notre aveuglement nous permet de nous mettre dans une position peut-être de prudence. Alors je vais me diriger vers mes conclusions. Donc je suis très conscient que la taxonomie que je commence ici à esquisser est très réductrice par rapport à l'état de l'art, mais nous aurons d'autres occasions pour évaluer les sous-groupes d'attention. Mais nous avons donc une métaphore, le spotlight de l'attention. d'une part, le contrôle par inhibition des perturbations, ce qu'on appelle la concentration, vous focalisez sur le livre, c'est-à-dire une assemblée neuronale est là pour voir la danseuse dans un certain sens. C'est le premier sens, la concentration, qui implique la cécité périphérique. Et puis, l'attention bottom-up, de l'autre côté, c'est cette flexibilité mentale qui vous permet de réorienter, comme disait Posner, le premier grand chercheur, on va dire, sur l'attention. Ah tiens, il y a peut-être un avion là-bas, il y a peut-être un danger ici, etc. Donc, comme pour la danseuse tout à l'heure, de faire du recadrage ou une réorientation du focus attentionnel. L'attention donc se définit dans la première dichotomie d'entrée de la taxonomie par deux aspects quantitatifs. Elle est comme Janus, elle a deux faces complètement différentes. Et vous pouvez, de manière ici très Walt Disney, sur un graphe très simple, mettre d'un côté l'hyperconcentration, de l'autre côté l'hyperzapping. Bien sûr, une flexibilité ou une distractibilité constante, c'est du zapping. Et c'est notre problème, bien sûr, à l'école maintenant, avec l'introduction des nouveaux médias, le multitasking, etc. La courbe d'adaptabilité ou d'optimisation est une courbe en U inversée. On est mieux, on est plus performant quand on sait jouer avec les deux facettes de Janus de l'attention. Parce que bien sûr, c'est très bien en mathématiques si vous voulez résoudre les nouvelles équations des théories complexes, systèmes non linéaires dynamiques, mais avec ça, vous ne traversez pas la rue pour aller acheter votre pain. C'est le docteur Tournesol qui ne s'en sort pas. Et si ce sont des émotions négatives, c'est bien sûr la rumination, c'est le cercle infernal de l'impossibilité d'arracher notre attention à ce qui fait mal, à ce qui fait peur, et on active des amygdales et on active des systèmes qui est très difficile ensuite de neutraliser. Et de l'autre côté, à nouveau, tout est dans tout dans la nature, si vous êtes trop distrait, vous êtes dans le zapping, c'est-à-dire dans l'impossibilité de fixer les contenus à un moment donné. Donc, vous voyez, les courbes en U sont en général des signatures de l'évolution naturelle, ou comme disait Aristote, une via media entre deux opposés. Il faut savoir jouer entre les deux. Le modèle théorique développé par Stanislas Dehaene, Jean-Pierre Changeux, pour vous donner quelques clés, et on en parlera à la table ronde, de cette cécité au changement, est assez simple. Quand vous avez une rupture de votre champ visuel, ici, c'est même pas un coupement total, c'est des maps flash, des tâches qui viennent interrompre. Vous voyez bien ici que la notion de distraction, vous pouvez arriver sur cette tâche, votre attention bottom-up peut être capturée par ça beaucoup plus rapidement que vous en êtes conscient d'ailleurs, et vous n'allez pas avoir le transient que l'on cherche à identifier comme étant important, c'est-à-dire la ligne qui passe de continu à discontinu. Par contre, si j'enlève les max flash, la chose saute aux yeux. Donc on voit très bien la notion de distraction ici. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Alors là, vous avez la théorie, je crois que c'est ce que l'on trouve à quelques centaines de mètres d'ici, au Collège de France, hein, avec Stanislas Dehaene. L'état conscient, ce à quoi vous avez un accès phénoménologique, c'est en vert. Vous le voyez, vous avez une accessibilité, c'est vert, on peut y aller. Une information subliminal que vous ne voyez pas, qui peut être implémenté dans le système nerveux, ce serait peut-être cette information en rouge. J'ai mis en rouge parce que vous ne la voyez pas, elle n'est pas accessible. Par exemple, tout ce qui va être homéostatique maintenant, votre pression sanguine, votre taux de glucose, c'est de l'information dans votre corps, mais ça reste sous le seuil de la conscience. Je ne sais pas à combien de degrés de glucose je suis maintenant, je mange toujours du chocolat avant, mais il faut 4,2 grammes par heure. Je ne peux pas le savoir où j'en suis maintenant, je le sens, mais je ne peux pas le savoir exactement. On appelle subliminal cette information qui est en dehors de l'espace de la conscience. Mais on peut l'observer. Elle est sous le seuil de la conscience. Et la taxonomie se déploie avec un type d'information qu'ils appellent préconscient. C'est-à-dire, vous ne voyez, vous n'êtes pas encore conscient du changement, du singe, du gorille, ou bien de la ligne blanche, mais il suffit là de replacer votre focus attentionnel. Vous voyez, on a quelque chose qui est plus proche de l'espace du travail global. Il y a juste les deux barres qui l'empêchent d'arriver à l'espace de travail conscient, à votre « aha, Erlebnis »,« aha, je vois le singe »,« aha, je vois le... » Donc, il suffit de déplacer le focus attentionnel avec les aides du pédagogue, du thérapeute, du papa, de la maman, pour amplifier en cascade de réverbération ces assemblées neurones. Bien sûr, il y a quelques points, mais c'est des millions de neurones. Et cette information préconsciente devient consciente. Et vous avez donc l'information qui est consciente, qui correspond à votre ha-ha Erlebnis du magic show phénoménologique, je vois, je sens, je peux dire. Donc pour résumer, on met les trois les trois types d'informations et le rôle de l'attention, vous voyez, c'est un rôle de filtrage qui permet au cerveau de parler de plus en plus fort jusqu'à l'état conscient. Vous avez une multiplicité de spécialistes qui parlent ensemble. Avant, ça reste du subliminal, ça va influencer, on en parlera à la table ronde probablement, votre comportement, mais c'est sous le seuil de la conscience. Donc le rôle de l'attention, c'est de filtrer et de sélectionner une information à un moment donné. Et quand on fait cette sélection, bien sûr, comme disait Thierry, on obnubile la périphérie. Je ne vais pas aller là-dedans, mais ça c'est ce qu'on fait en laboratoire. Ce que Stanislas Delane a fait en laboratoire, il voit qu'une information concernant dans la lecture, vous voyez, quand on flash subliminalement des mots, n'active qu'une partie du cortex visuel, tandis que quand vous êtes conscient, vous avez un facteur x14, en tout cas, au niveau de l'activité. Et là, vous dites « je vois ». Donc, en un mot, pour faire quelque chose de très long, hein, c'est de longues études, je dirais que les neurosciences cognitives peuvent nous offrir un cadastre général d'explication du mental sur ses rouages, là où la phénoménologie ne peut pas accéder. Par contre, elles ne vont pas vous donner des recettes. Il faut éviter toute tentative de réductionnisme, d'opéralisation ou d'instrumentalisation. Par contre, elles offrent des éclairages pour renouveler le geste pédagogique ou thérapeutique. Par exemple, les psychiatres en Suisse s'intéressent beaucoup à ça. Comment les neurosciences permettent de sauver cette personne qui est justement dans sa boucle infernale de la concentration, de la rumination. Donc les neurosciences cognitives ne sont pas prescriptives, n'ayez pas peur. Si vous voyez un neuroscientiste qui vous dit comment apprendre ou faire apprendre, vous tournez simplement les talons de 180 degrés et vous retournez à Paul Ricoeur, ce sera bien meilleur. Donc, une large magnitude d'actions et de gestes, une grande liberté, dira Stanislas Dehaene, pédagogique pour les enseignants. En un mot donc, les neurosciences cognitives peuvent fournir de nombreuses données et de nouvelles perspectives prolongeant notre phénoménologie sur notre petit monde, dans la tête. Et je crois que c'est sur ces dernières paroles et remarques plutôt programmatiques et une tonalité ravageusement optimiste que je vous remercie de votre attention.